Le journal Valérie Le Digène. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Eh bien, du beau temps en résumé pour aujourd'hui et les jours suivants d'ailleurs aussi, ça va suivre, avec des températures comprises entre 11 et 14 degrés. Un des skippers de la course Cap Martinique n'est plus à bord de son voilier.
Philippe Benoiton est l'un des skippers qui a pris le départ dimanche de cette course amateur, la Trinité-sur-Mer, la Martinique. À 3h du matin, la nuit dernière, la direction de la course a essayé d'établir le contact après avoir observé que le voilier était vraiment au ralenti. Deux concurrents se sont déroutés mais n'ont pas réussi à monter à bord. La mer était mauvaise. Les gardes-côtes espagnols ont été sur place et ont donc constaté que le voilier est vide. Les recherches aériennes se poursuivent. Deux sites bretons choisis parmi les 55 choisis par le gouvernement pour être réindustrialisés. Le site du pôle Pégase à Lannion dans les Côtes-d'Armor et l'ancien abattoir de Tilisapco à Guerlesquin dans le Nord Finistère qui vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement de l'État pour attirer de nouveaux projets industriels. Le site Pégase est un ancien site des télécoms à Lannion. Il va être accompagné à l'échéance 2025-2027 et Guerlesquin dans un deuxième temps, 2027-2030. L'enquête s'oriente vers une noyade accidentelle à Erquy dans les Côtes d'Armor. Les corps sans vie d'une femme de 30 ans et d'un homme de 25 ans, découverts lundi dans une entreprise maraîchère alors qu'ils flottaient à la surface d'un bassin artificiel de rétention d'eau. Selon un communiqué de presse du procureur de Saint-Brieuc ce matin, il ressort que les victimes ont passé une soirée festive samedi en compagnie d'un troisième homme. Ils auraient consommé de l'alcool et des stupéfiants, notamment de la kétamine qui appartenait au jeune décédé. Le troisième homme n'aurait pas dormi sur place. Il a récupéré ses affaires le dimanche matin sans les voir. La profondeur du point d'eau où les corps ont été retrouvés atteint au maximum 1,17 m. L'audience au tribunal administratif de Rennes concernant la menace d'expulsion d'Alassane Kaba s'est déroulée comme prévu ce matin. Alassane Kaba, c'est un Guinéen de 21 ans installé à Pleyber-Christ près de Morlaix, qui est soutenu par un employeur et par des Morlaisiens. Un représentant de la préfecture du Finistère était présent à l'audience ce matin à Rennes. La décision judiciaire est attendue dans un mois.
Le plus grand squat de France évacué par les forces de l'ordre ce matin en vue des Jeux Olympiques.
Oui, c'est à Vitry-sur-Seine au sud de Paris. 450 sans-abri ont été délogés, pour la plupart des migrants, dont 80% sont en situation régulière en France selon les associations. Ils vivaient dans cette entreprise désaffectée depuis plusieurs mois, faute de trouver un logement ou dans l'attente d'un HLM. Journée spéciale sur les Jeux Olympiques sur France Bleu Brésil. Aujourd'hui, toute la journée, des témoignages de Bretons qui vont participer aux Jeux, qu'ils soient sportifs, relayeurs de la flamme ou bénévoles. Le parcours breton de la flamme les 6 et 7 juin dans le Morbihan et le Finistère est d'ailleurs à retrouver sur francebleu.fr. Nous sommes à 100 jours de l'ouverture des Jeux et ça faisait quand même 100 ans que ces JO n'avaient pas été disputés en France. Des centaines de milliers de spectateurs du monde entier sont attendus pour applaudir les athlètes et ils seront accompagnés par 45 000 bénévoles. Et parmi eux, Bernard Palu. Il habite Éderne dans le sud Finistère et il a été sélectionné parmi les 300 000 candidats. Il va s'occuper des transports des volontaires. Baptiste Schweitzer l'a rencontré.
À 61 ans, Bernard Palu a une longue expérience de sportif. Il pratique le marathon pour vivre les JO de l'intérieur. Il a donc postulé à l'automne dernier pour être bénévole. Et surprise, il y a quelques semaines, il a reçu sa convocation.
C'est une grande chance pour moi parce que c'était quand même un peu plus de 300 000 candidatures de reçues à Paris pour 45 000 bénévoles. Et donc moi j'ai eu la chance d'être pris dans ces 45 000 bénévoles. C'est un rêve de gosse.
Son planning s'annonce chargé. Ce fan de sport ne pourra sans doute pas suivre les épreuves, mais peu importe, car une deuxième surprise l'attend.
Et ouais, je serai également athlète pour ces Jeux Olympiques, on va dire. J'ai réussi à être sélectionné pour ce marathon pour tous, sur le 10 km.
Un sacré pied de nez à la maladie qui le touche. Il est atteint de Parkinson. L'occasion pour lui de faire passer un message.
Ma neurologue m'a dit que c'est le sport, notamment la course à pied que je pratique, qui est a vraiment ralenti la maladie de Parkinson.
Et pour ce marathon pour tous, il courra sous les couleurs de l'association Céline et Stéphane, le semi-espoir.
On est prêt. Voilà le message envoyé ce matin par le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet. Alors, dans le détail, les sites de compétition qui étaient à construire de A à Z, comme le centre aquatique olympique à Saint-Denis ou l'aréna de la Porte de la Chapelle à Paris, ont en effet été livrés en temps et en heure. Mais Sarah Tuchérard, il faut le dire, les organisateurs ont encore un peu de travail.
Dans les semaines qui viennent, le montage des sites temporaires va s'accélérer. Les travaux ont commencé au Champ de Mars, futur terrain de beach volley, et à la Concorde, qui accueillera les sports urbains. Ce sera bientôt au tour du mur d'escalade du Bourget, des aires de tir à l'arc aux Invalides et des rings de boxe au parc des expositions de Villepinte. Au total, 200 000 places de tribunes temporaires doivent être aménagées d'ici le coup d'envoi des Jeux. D'ici là, les compétitions tests vont aussi se poursuivre. Il reste une dizaine de sites à expérimenter, notamment Versailles pour l'équitation et la Défense Arena de Nanterre pour la natation. Le village olympique lui-même n'est pas tout à fait prêt à accueillir les athlètes. Seuls 4000 lits ont été installés sur les 15000 prévus. En revanche, le village média va très vite commencer à se remplir. Ses premiers occupants y sont attendus à la fin du mois.
Journée spéciale JO sur France Bleu Brésil jusqu'à ce soir.
Pas toujours simple de savoir où implanter des éoliennes, des méthanisateurs ou des centrales voltaïques, photovoltaïques.
Et c'est pour ça que l'agglo de Quimper a décidé de créer une carte pour recenser les lieux. Les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 8 à 9% de la production énergétique et l'objectif est d'arriver à 15% en 2030. Certaines des 14 communes de l'agglo se sont montrées très intéressées pour développer des méthanisateurs, comme l'explique Thomas Ferrex, c'est le vice-président de QBO, au micro de Tiffaine Morin.
Chaque commune a organisé soit des réunions participatives, soit des remontées avec les habitants. La plupart l'ont fait aussi avec le monde agricole. Et c'est vrai que la méthanisation, on aura de toute façon dans les années qui viennent toujours l'utilisation du gaz. Par contre, il faut se passer du gaz fossile. Et on a la possibilité sur nos territoires d'avoir la production de biogaz, donc de gaz fait à partir de déchets fermentescibles. Et sur le territoire, on en a. On va en avoir de plus en plus avec le retrait des biodéchets de nos poubelles. Et puis en plus, on a sur nos territoires des agriculteurs qui produisent du biodéchet. C'est comment aujourd'hui valoriser aussi au mieux ces biodéchets sur le territoire. Et on a la possibilité de faire de petits méthaniseurs qui permettront justement de diffuser dans les réseaux de gaz du biogaz local.
Et un projet de construction de 6 éoliennes devrait voir le jour dans 2 ans à Edern. Les infos sont à retrouver sur francebleu.fr. La secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sabrina Agresti-Bourrache, sera à Lorient cet après-midi. Elle va visiter le commissariat qui a été rénové après des attaques en mars 2023 lors des manifestations contre la réforme des retraites. Et elle va aussi aller échanger avec les habitants du quartier de Kervenanec qui sont en proie à un problème récurrent de trafic de stupéfiants.